Le cinéma au féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie ». Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
Race stupide et idiote, tu te repentiras de te conduire ainsi, c'est moi qui te le dis. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme, cette bête fauve et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Ceci est un extrait des Chants de Maldorore, composé par le comte de Lautréamont en 1869, que j'ai choisi pour introduire la réalisatrice dont nous parlerons aujourd'hui, Sarah Dugados, dite Sarah Maldorore. Née en 1929 dans le Gers d'une mère du Sud-Ouest et d'un père guadeloupéen, Sarah Maldorore est l'auteure d'une quarantaine de films. Elle fut une réalisatrice militante, poétesse libre, documentariste, voyageuse, amie de Chris Marker et Aimé Césaire, passionnée de peinture et de jazz, et lia son destin aux luttes anticoloniales des pays africains et antillais. Disparue en avril 2020 du Covid, elle laisse derrière elle une œuvre multiple, composée de fiction, documentaire, poésie, où la politique n'est jamais bien loin. Cet épisode sur Sarah Maldorore, je suis ravie d'échanger avec Sylvain Lefort, journaliste cinéma et cofondateur de Revue et Corrigée. Bonjour Sylvain.
Bonjour Esther, bonjour à toutes et tous.
Pour le dernier numéro de Revue et Corrigée consacré au cinéma d'Afrique, tu as interviewé la fille de Sarah Maldorore, Anouchka Deandrade, directrice artistique du Festival d'Amiens. Donc, il faut savoir que l'œuvre de Sarah Maldorore est plutôt méconnue en France. Je pense que il y a peu de gens qui la connaissent, et même parmi les cinéphiles, son nom n'est pas encore totalement répandu. C'est vrai que peu de ses films sont visibles et il existe très peu de littérature sur elle. Donc, Sylvain, pour commencer cet épisode, je voudrais savoir si tu pourrais nous en dire un peu plus sur Sarah Maldorore. Qui était-elle? Et nous rappeler un peu, en quelques mots, son profil et son parcours.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir sur Sarah Maldorore, c'est que historiquement, on la considère comme la pionnière du cinéma africain, dans la mesure où c'est la première femme à avoir tourné en Afrique. Parallèlement, on cite également le nom de Safi Faye, autre grande réalisatrice africaine, mais qui est considérée comme la première cinéaste africaine à avoir tourné en Afrique. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut dire de Sarah Maldorore, c'est qu'elle est née en France. Elle est née à Condom en 1929. Condom, c'est une commune du Gers. Et elle est décédée il y a quasiment jour pour jour un an aujourd'hui, enfin en ce moment, puisqu'elle est décédée le 13 avril 2020 des suites de la Covid dans la région parisienne. Ce qu'on peut dire sur son parcours, c'est qu'elle est née donc dans le Gers d'un père guadeloupéen, d'une mère gersoise, sous le nom de Dugados. Mais, et quand on a interrogé Anouchka, c'est l'un des points sur lesquels elle a vraiment insisté, c'est que Sarah Maldorore, plus qu'une cinéaste, se considérait avant tout comme une poète, comme une femme poète. Elle avait mis toute son action autour de la poésie. Et ça se manifeste de manière symptomatique et éclatante à travers le patronyme qu'elle se choisit, hein, qui est celui de Maldorore. Maldorore, en référence directe à l'œuvre de Lautréamont, le poète du XIXe siècle, et des Chants de Maldorore. Donc on voit à quel point la poésie, pour elle, fait vraiment partie de son mode d'expression et qu'elle va, à travers les différents genres, à travers les différentes écritures qu'elle va utiliser, qu'elle va vraiment magnifier, transposer dans les différents langages. Alors, Sarah Maldoror, et derrière sa fibre artistique, commence d'abord par le théâtre, avec une vocation qui est de faire diffuser les œuvres d'auteurs noirs. Elle crée donc en 1956 une compagnie de théâtre, la compagnie des Griots, avec un certain nombre de personnes, d'acteurs et d'actrices noires. Je pense à Toto Bissinthe, je pense à Samba Abambakar, je pense à Robert Liensol. Et avec cette compagnie, outre le fait de jouer des auteurs noirs, elle va aussi pousser une autre idée qui est de pouvoir jouer des rôles qui étaient dévolus jusque-là à des acteurs blancs. Il monte ainsi Huis clos de Sartre, puis ils vont marquer un très grand coup à la fin des années 50 en montant la pièce de Jean Genet, Les Nègres, qui est une pièce extrêmement forte et symbolique, surtout à l'époque. Et comme beaucoup d'artistes à l'époque, elle est très vite attirée par la force et le poids des images. Et donc, n'étant absolument pas issue du sérail, ne connaissant rien à la technique, elle décide de se former. Et effectivement, au sein de Présence africaine, on lui conseille de se rendre à Moscou, où il y a la fameuse école VGIK, qui est l'équivalent de la FEMIS, on va dire, pour Moscou, qui forme un certain nombre donc, d'artistes, de futurs metteurs en scène, à tous les métiers, en fait, du cinéma. Et elle se spécialise dans la mise en scène tout en touchant tous les aspects du cinéma, aussi bien le montage que le scénario, que l'écriture et que le jeu d'acteur, mais qu'elle avait déjà fortement expérimenté avec sa compagnie de théâtre. Donc au début des années 60, elle part à Moscou se former au cinéma. Elle y reste 2 ans jusqu'en 1962 et en compagnie donc de son compagnon Mario De Andrade, à la suite donc de cette formation, elle part de nouveau, là, c'est direction le Maroc, Rabat, puisque le roi Mohamed V aidait alors beaucoup les mouvements de libération nationaux et surtout africains à se former, à être aidés financièrement et intellectuellement. Donc, il déménage dans un premier temps à Rabat, puis en 1964 à Alger, qui est aussi un autre pôle de gravitation des mouvements de libération en Afrique, d'autant que l'Algérie venait d'être indépendante.
C'est là qu'elle devient assistante de réalisateur et c'est là qu'elle fait ses armes un peu avant de passer à la réalisation. C'est ça, en Algérie, au milieu des années 60.
Exactement, exactement. Elle y tourne son premier film, qui est un petit documentaire sur les jeunes femmes algériennes universitaires. Mais surtout, elle va vraiment faire ses armes dans le cinéma, dans l'équipe de Gillo Pontecorvo, qui réalise le fameux film La bataille d'Alger, et dans lequel elle va avoir un rôle très important en termes de logistique, même si elle n'est pas créditée au générique. Elle y a participé, des photos et des documents en attestent, on en a même publié un dans le dernier numéro de Revue et Corrigée. Elle rencontre également un autre personnage très important qui va être fondateur dans son travail de documentariste, c'est William Klein. Puisque William Klein, le documentariste, cinéaste de Polymagou, entre autres, réalise alors en 1969 un documentaire qui est consacré au Festival panafricain d'Alger. Et c'est à la suite de cette expérience qu'elle se lance dans la fiction, seule, avec son premier film, qui date de 1969, Monan Gambé, qui est financé à 100% par l'Algérie, par la cellule de communication du FLN. Thank you.
Alors, donc, en fait, c'est son premier court-métrage, hein, Monangambé, qui a été tourné à Alger, qui va recevoir plusieurs prix, qui est encore aujourd'hui considéré comme un de ses meilleurs films. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce film? Qu'est-ce qui en fait sa spécificité et pourquoi est-il tant remarqué?
Alors, tout d'abord, c'est un peu plus qu'un court-métrage, c'est en fait un moyen métrage d'une trentaine de minutes, qui est un film absolument que l'on peut voir actuellement, et qui est un film absolument très représentatif effectivement de son esthétique. Alors, tout d'abord par son sujet. Son sujet, c'est la torture par l'armée coloniale portugaise d'un sympathisant de la lutte pour la libération de l'Angola, et lequel personnage est visité en prison par sa compagne. Donc, on y associe à la fois un point de vue original, qui est le point de vue féminin, le point de vue de la personne qui se trouve aux côtés du héros, d'une part, et avec un message politique, un message fort de dénonciation des pratiques, notamment de la torture, par les autorités coloniales portugaises. C'est donc en ce sens que c'est un film vraiment très fort de ce point de vue-là. L'autre aspect qui éclate vraiment à travers ce premier film, c'est son esthétique. Vraiment, ce qui est très frappant, c'est la manière dont elle va filmer les corps. C'est un film sur la torture. On peut s'attendre à des scènes choc, à des scènes presque gore, et ça n'est pas du tout le cas. C'est plutôt une approche sensuelle, très proche des corps, de la peau, qui va dominer ce film, qui, malgré son sujet, hein, extrêmement fort, extrêmement douloureux, ben c'est plutôt une forme de douceur et une forme de beauté qui va en sortir, non pas pour magnifier, hein, bien sûr, la torture, ce n'est pas du tout le cas, mais pour avant tout s'attacher à l'humain. Et c'est vraiment l'une des marques de fabrique de Sarah Maldoror, c'est de montrer avant tout l'humanité des personnages, même dans la plus profonde détresse dans laquelle ils peuvent être plongés. Enfin, l'autre point qu'on peut peut-être noter à travers ce film, qui est vraiment caractéristique, c'est sa musique.
Oui, c'est vrai qu'il y a une musique très particulière, c'est du free jazz, hein, c'est ça ?
Exactement, c'est du free jazz, et c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. On aurait pu s'attendre à une musique plus angolaise ou qui vient et travailler vraiment... l'origine géographique de la narration, mais c'est en fait une musique, donc c'est du free jazz, c'est même le Chicago Art Ensemble qui a joué pour le film une partition inédite qui a été enregistrée pour le film en live. Donc il y a aussi un processus presque très très libre dans sa manière de faire, qui a même été jusqu'à cette production de la musique. C'est quelque chose de très moderne et de très fort. Et vraiment, elle rencontre à cette occasion l'animateur du Chicago Art Ensemble, qui est Archie Shep, avec qui elle va rester amie jusqu'à sa disparition, puisque Archie Shep, lui, est toujours vivant. Il vient même de sortir un nouvel album. Mais cette rencontre est aussi fondatrice de la passion qu'avait Sarah Maldoror pour en fait l'ensemble des artistes, qu'ils soient issus du cinéma, qu'ils soient issus de la peinture, qu'ils soient issus de la musique, dès lors qu'ils ont dans leur univers une forme de poésie et de grâce, et ce qu'elle va à chaque fois essayer de mettre en avant. Et comme on le voit à travers la manière dont elle va se focaliser, se zoomer avant tout sur les peaux, sur les corps, c'est son regard de poète qui émerge au-delà de son discours militant très fort, mais qui est en fait soutenu par sa vision, ses images poétiques et d'inspiration poétique.
C'est lequel ? Comment est Marie ? C'est comme vous avez vu, Navy.
Sim, Maria, o que é que há? Rápido.
Vem procurar meu homem, Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é um bandido, queria matar todos
os outros. Bandido, seu secretário, mas como então?
Não discuta, se não queres complicações, volta para Sanzal.
Ai, o Domingo é! O Abiwabi! Ai, o Domingo é! O Abiwabi!
Cala-se a boca, essa gaja, se não faz o mesmo que se fez ao homem, estás a ouvir, Tonero?
Ai, o Ai, ué, Domingo, ué! Guabi, ué!
Mas que lindo, Maria!
Ai, ué, Domingo, ué! Guabi, ué! Ai, ué, Domingo, ué! Guabi, ué!
Donc on vient d'entendre un extrait de Sambizanga. Donc ça, c'est le premier long métrage de Sarah Maldoror, réalisé en 1972. Et le film parle de la répression du mouvement de libération de l'Angola en 1961 à travers le personnage de Maria, qui part à la recherche de son mari Domingos, militant révolutionnaire, arrêté et torturé par la police. C'est intéressant parce qu'on retrouve le point de vue féminin comme dans son premier film, Monangambé. Et donc, c'est le compagnon de Sarah Maldoror, donc, que tu as évoqué tout à l'heure, Sylvain, Mario Pinto de Andrade, donc poète et homme politique angolais, qui adapte le roman en scénario pour ce film, et qui a été tourné avec des acteurs réels de la lutte pour la libération de l'Angola, si je ne me trompe pas. On se rend compte avec ce film, qui là encore évidemment a une dimension politique, que en fait, le travail de Sarah Maldoror est vraiment étroitement lié à la décolonisation de l'Afrique.
Oui, oui. Complètement. C'est vraiment, en tout cas dans les longs métrages, dans les trois principaux longs métrages qu'elle tourne, c'est vraiment le sujet qu'elle veut mettre en avant. Elle dira très souvent, c'est à nous, Africains, de parler de nous-mêmes, de raconter notre histoire et de ne pas attendre que les autres le fassent pour nous. À nous de prendre notre histoire en main. Il y a vraiment une volonté à travers les films, comme on le trouve un peu d'ailleurs dans la carrière de Ousmane Sembène, une volonté de faire en sorte que les Africains se réapproprient leur histoire, se réapproprient leurs histoires et se réapproprient leurs écrans à travers les images. Pourquoi ? Parce que tous les deux, Sarah Maldoror comme Sembène Ousmane, sont convaincus que ça ne peut passer que par les images, par la force de captation qu'elles suscitent. Et tous les deux vont vraiment utiliser ce médium à ces fins-là. Et Sarah Maldoror en est le principal, l'un des principaux exemples à travers le film que tu cites, Esther, mais à travers également aussi un autre film qu'elle a tourné dans l'intervalle en 1971, qui s'appelle « Des fusils pour Banta ».
Oui, un film invisible aujourd'hui, hein, qu'on ne peut vraiment pas voir.
Exactement, qu'on ne peut pas voir. Pourquoi ? Parce que donc elle part le tourner en Guinée-Bissau, et à son, donc elle est toujours hébergée en fait en Algérie par les autorités algériennes, et à son retour… Là, les histoires divergent, mais d'après sa fille, Anouchka, ce serait le point de vue très féministe qui est développé, qui aurait suscité la colère des autorités du FLN et qui s'en serait vraiment pris à Sarah Maldoror de manière physique, au point qu'elle a dû quitter précipitamment l'Algérie en y laissant les rushs et tout le film qu'elle y a tourné. Donc, c'est un film qui potentiellement se trouve toujours dans les archives, des autorités ou des cinémathèques algériennes. Il y a là un travail de recherche, en tout cas, et d'archéologie cinématographique à faire pour remettre la main sur les bobines, si elles ont été conservées et si elles existent encore, pour découvrir ce film qu'elle a tourné donc entre Modern Gambay et Sambizanga.
Ouais. À part les deux films dont on vient de parler, Modern Gambay et Sambizanga, j'ai l'impression que Sarah Maldoror a plutôt privilégié la forme documentaire. C'est ce qu'elle va faire ensuite, il me semble, à partir des années 70, elle va réaliser beaucoup de documentaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur quels sont ses sujets de prédilection? J'ai l'impression qu'elle voyage beaucoup aussi. Que va-t-elle faire en fait? Comment va-t-elle occuper ces années-là à partir du milieu des années 70?
Oui, alors effectivement, c'est quelqu'un dont l'œuvre est d'autant plus difficilement discernable, qu'elle est protéiforme à la fois dans les sujets, mais à la fois et dans les formes et dans les écritures. Et effectivement, elle va privilégier à partir, comme tu le dis, à partir de son implantation en France, en tout cas officielle, parce qu'elle va énormément voyager, comme en témoignent tous les documentaires, tous les films qu'elle va faire par la suite. Elle va être vraiment quelqu'un de qui, par son extrême curiosité, va s'intéresser à énormément de sujets. Comme le disait sa fille, comme elle le dit dans l'interview qu'elle nous a accordée, rien ne l'arrêtait. Si un sujet, une couleur l'intéressait, elle se mettait à écrire un projet. Elle était extrêmement curieuse. Et en fouillant dans ses archives, sa fille a découvert qu'il y avait environ une petite cinquantaine de projets qui n'avaient pas été réalisés. Donc, au-delà donc de son œuvre, d'une quarantaine de films, il y en a en plus 40 à 50 autres qui n'ont pas été réalisés.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, au dire de Anouchka des Andrades, c'est qu'elle avait même un petit regret, c'est de n'avoir pas réalisé de publicité. Pourquoi ? Parce que la forme courte, elle aimait beaucoup la forme courte. Et quand on regarde sa filmographie, il y a effectivement beaucoup de documentaires de 5-10 minutes. On voit que c'est une forme qu'elle privilégiait parce que ça lui permettait d'aller droit à l'essentiel et en même temps d'y insuffler une forme poétique extrêmement incisive et extrêmement sensuelle. Sans passer par des éléments et narratifs classiques. Donc oui, à partir de là, elle réalise un nombre de films impressionnants, aussi bien sur des artistes, sur Louis Aragon, sur Aimé Césaire, sur Toto Bissinthe, qu'elle avait rencontré en créant la compagnie des Griots dans les années 50, sur Archie Shepp également, mais aussi sur Robert Doisneau, sur Miro. Donc, c'est aussi bien la littérature, la poésie, la chanson, la musique, la photographie qu'elle convoque ici. Mais aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va filmer des lieux, et des lieux qui sont empreints d'histoire et qui, pour la plupart, la ramènent aux problématiques effectivement liées au colonialisme et aux traces du colonialisme et à la nécessité de l'homme de se libérer de cette entrave. Alors, elle va tourner au Cap-Vert, elle va tourner à Haïti, elle va tourner à la Martinique sur ces thèmes-là, mais elle va aussi s'intéresser aux lieux qu'elle habite, aux lieux qu'elle fréquente. Donc, elle s'installe à Paris, elle s'installe également à Saint-Denis et elle va tourner des films sur la basilique Saint-Denis ou, de manière un peu plus éloignée, sur la Scala de Milan.
Mexico, 1983. Le peintre Vladi achève un travail de 8 années. Décoré de fresques, la chapelle de San Felipe de Neri, transformée en bibliothèque par l'État mexicain. Son nom entier, Vladimir Viktorovitch Kibaltich. Né en 1920 à Petrograd, aujourd'hui Leningrad, il est le fils du grand écrivain Victor Serge, anarchiste rallié à la révolution bolchevique, ami de Lénine et de Trotsky, mort en exil à Mexico en 1947.
On vient d'entendre un extrait de son documentaire sur le peintre Vladi, réalisé au Mexique en 1989. Et j'ai l'impression que la peinture est extrêmement importante dans son travail. C'est aussi ce que dit Anouchka de Andrade dans l'entretien que tu as fait avec elle pour Revue et Corrigée. C'est qu'elle demandait toujours au chef opérateur de ses films d'aller voir telle peinture ou tel musée, qu'elle emmenait toujours ses filles voir un tableau dans une église. Enfin, ouais. Vraiment, la peinture est extrêmement présente dans son travail, j'ai l'impression. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce documentaire que moi, j'ai beaucoup aimé sur Vladi, on voit aussi que la politique n'est jamais bien loin, parce que finalement, ce peintre... il est installé à Mexico, l'histoire de son père est liée à l'histoire de Trotsky, il parle beaucoup de politique. Ouais. Donc en fait, la politique, elle est quand même aussi toujours très présente dans son œuvre, même quand elle parle de peinture.
Oui, absolument. Ça, c'est la poésie et les arts, pour elle, viennent vraiment nourrir, enrichir une réflexion politique autour de la décolonisation, autour de la libération, autour de la liberté d'expression. Ça, c'est, et comme tu le dis très, 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 très bien, enfin, c'est absolument indissociable. Et ce documentaire qu'on vous encourage, Esther et moi, à découvrir, parce qu'il présente effectivement un personnage très peu connu aussi, Vladi, donc c'est le fils de Victor Serge, effectivement, comme tu le disais, très proche de Trotsky, qui a dû s'exiler comme Trotsky au Mexique dans les années 40, mais qui n'a pas eu subir le sort funeste qu'a subi
le pic de
Trotsky.
Glace. Ouais.
Exactement, le pic de glace. Mais donc son fils qui s'y est installé, devenu peintre. Et en fait, elle est allée le rencontrer de manière très à la fois sur un coup de tête, parce que en fait, Sarah Maldoror avait adapté pour la télévision française dans les années 70 une œuvre de Victor Serge qui s'appelle L'hôpital de Leningrad, et dans lequel elle faisait jouer pour son dernier rôle à la télévision Roger Blin, le metteur en scène des Nègres de Jean Genet. Et donc, sur un coup de tête, elle se rend à Mexico avec la volonté de montrer à Vladi le film qu'elle a tiré de l'œuvre de son père, Victor Serge. Elle le lui montre. À la fin de la projection, il ressort de la salle très vite en larmes et ne lui donne aucun signe de vie. Il quitte très vite les lieux. Et en fait, donc, elle est un peu inquiète. Simplement, le lendemain, Vladi la rappelle et lui exprime à quel point il a été ému et bouleversé par la vision de ce film-là. Et donc, il l'invite chez lui. Et là, elle découvre Vladi en train de créer une fresque pour une cathédrale à Mexico. Et elle découvre cette fresque, et elle découvre l'artiste au travail, et sur un coup de tête, là aussi, elle décide, elle propose de le filmer. Et 24 heures après, elle pose sa caméra et filme l'artiste au travail. Et on a un film qui est vraiment d'une grande force sur l'acte créatif, sur le processus de la création de la peinture, qui, à mon sens, est aussi fort que le film qu'avait consacré Clouzot à Picasso dans les années 50, mais qui, là, a été fait pour la télévision, n'a été montré qu'une seule fois et depuis est retombé dans les oubliettes de l'audiovisuel. Et ce serait vraiment... dommage de passer à côté, vu la force que ce film a sur le processus créatif et sur la manière dont on voit un peintre au travail.
Oui, et en plus, moi, ce que je trouve très fort et peut-être encore plus fort que le documentaire de Clouzot sur Picasso, c'est que ici, Vladi explique tout ce qu'il a voulu créer. On a le discours de l'artiste derrière l'œuvre, et ça c'est incroyable en fait, de voir cette œuvre commentée en direct par l'artiste qui est extrêmement érudit, qui est très engagé politiquement, qui connaît très bien l'histoire aussi. Je trouve que c'est ça ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce documentaire.
Ouais, complètement. Et je suis sûr qu'en fouillant dans sa filmographie, dans ses documentaires, on trouverait la même chose sur Aragon ou sur Aimé Césaire. C'est vraiment des documentaires que j'ai hâte de découvrir, car je suis sûr qu'il mêle avec autant de conviction et de justesse et de bonne distance le discours de l'artiste sur son œuvre et qui est en train de se faire, son engagement aussi, parce que sont tous des artistes engagés qu'elle a filmés, ouais. Mais qui aussi avaient une science de leur art extrêmement, extrêmement aiguë et un discours extrêmement pointu.
Ouais. On va devoir malheureusement clore cet épisode parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur Sarah Maldoror. Oui. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais juste te poser comme question, Sylvain, pourquoi en fait elle est si peu connue en France ? Parce que j'ai l'impression que aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. C'est qu'elle est beaucoup plus connue aux États-Unis qu'en France. Et donc, comment ça se fait qu'on connaît si peu Sarah Maldoror ?
C'est une très bonne question, ça. Et c'est un mystère. Je crois, bon, si les États-Unis lui portent un tel intérêt, c'est parce qu'il, voilà, surtout dans les années 70, il y a eu vraiment une très forte attention qui a été portée par les étudiants et le milieu universitaire à des questions autour du genre, de couleur de peau, d'idéologie. Et Sarah Maldoror en est vraiment une représentante très forte. À l'inverse, en France, l'université se porte plutôt sur des artistes auteurs avec des thématiques très identifiées, avec ce qui a joué aussi contre Sarah Maldoror, c'est dû au fait qu'elle était en fait totalement inclassable. Elle est inclassable, pourquoi ? Parce qu'elle ne se définissait pas totalement comme seulement réalisatrice, mais aussi comme poète. C'est aussi parce que son œuvre est protéiforme. Elle a touché aussi bien au long métrage qu'au documentaire, qu'au portrait, qu'à la musique. Les thématiques qu'elle a embrassées, on l'a vu, en 30 minutes, on n'a même pas fait le tour de l'ensemble de son œuvre, mais elle a parlé aussi bien politique que peinture, que cinéma, que musique, elle a fait du théâtre, et quand on voit ces petits films qui sont vraiment et des petits films de pure poésie, il faut peut-être ajouter une chose, c'est qu'elle était très proche aussi de Chris Marker, ouais. Chris Marker qui avait aussi une écriture de documentaire très particulière, qui le rendait inclassable et génial également. Et ben, Sarah Maldoror, mine de rien, si on s'y penche un peu, pourrait être considérée comme une sorte de pendant féminin de Chris Marker, vu la floraison de son œuvre et vu son écriture extrêmement poétique et le tout au service d'un discours militant engagé, très identifié, à l'égal de ce qu'était aussi Chris Marker.
Et si je ne me trompe pas, on trouve des images de Sarah Maldoror dans le film de Chris Marker, Sans soleil.
Absolument, ouais. Absolument. Donc on voit, elle lui a prêté des images qu'elle avait tournées en Guinée-Bissau, il me semble. Et donc on voit l'échange intellectuel, artistique de ces deux artistes qui se nourrissaient l'un de l'autre de par leur proximité, d'abord géographique et puis ensuite intellectuelle et artistique.
Merci Sylvain. Donc si tout se passe bien, Sarah Maldoror sera mise à l'honneur à deux occasions en 2021. D'abord avec la ressortie de Sambizanga en version restaurée par la Film Foundation et la Cineteca de Bologne. Et surtout une exposition sur Sarah Maldoror au Palais de Tokyo à l'automne 2021. On espère que les musées auront rouvert d'ici là. Merci au Mouvement Up de coproduire ce programme et merci beaucoup Sylvain pour ta participation. Ton entretien avec Anouchka Deandrade est à retrouver dans le dernier numéro de Revue et Corrigée. consacré, je le rappelle, à l'histoire des cinémas d'Afrique. Merci.
Merci à vous.